Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean Ducétour. Bonjour Jean.
Bonjour Yannick.
Alors, je ne sais pas si je dois dire Jean Ducétour ou si je dois dire Le Drus, on va dire un peu les deux. À la Baule, il est connu sous le nom de Jean Ducétour. Maintenant, c'est Le Drus, le premier rappeur drus de la scène rap française.
Absolument.
Qui prépare son premier album et qui mixe en ce moment. Mon cher Jean, on va commencer par Jean, puis progressivement, au fur des jours qui viennent, on va passer à Le Drus. Hein, on va commencer
Allez,
la première émission avec Jean. On t'a connu à la Baule, tu as été le premier aussi à te lancer dans les crypto-monnaies, à avoir lancé une start-up. Ouais. Tu as pris un peu de recul en laissant ton associé.
Oui. En tout cas, ça a été une expérience incroyable. D'abord d'être une levée de fonds financée en crypto-monnaie. Effectivement, quand on crée une start-up de cette façon-là, c'est une start-up qui ressemble à aucune autre start-up. Et pourtant, j'en avais créé avant d'autres et sous d'autres formes de levée de fonds, cette fois-ci contre du capital avec des investisseurs privés. Donc, c'était une autre logique et une très belle histoire pour moi, effectivement, qui maintenant est derrière.
Et puis maintenant, c'est ton histoire aussi, elle est très belle.
Hey, merci. C'est effectivement une... Bon, pour moi, c'est la même personne, évidemment, mais c'est vrai que Yannick, on s'est déjà rencontré pour parler start-up, entrepreneuriat, pour parler en tant qu'auteur aussi d'un livre, journal intime d'un start-upper, c'était il y a maintenant 3 ans. Mmh.
Qui était aussi... Où tu racontais cela dans le journal intime d'un start-upper.
Tout à fait, oui.
Ton enfance au Liban.
Aussi, oui, c'était un récit qui...
Orphelin.
Absolument, oui, le point de départ, c'est ça, oui. C'est vrai, de mon chemin de vie, oui, tout à fait, oui.
Après, élevé par les sœurs.
Recueilli, oui, à l'âge de 2 jours, devant la porte d'un orphelinat en pleine nuit, dring, et c'est des sœurs religieuses qui ont récupéré le bébé. Et qui, 2 mois après, m'ont mis dans un avion pour Orly, et je suis arrivé en France comme ça, recueilli par une famille géniale, où j'ai eu une enfance très heureuse.
Donc pas d'enfance au Liban, hein, naissance au Liban.
Ah non, bah, je suis Beyrouth 1975, Beyrouth 1975, autant dire, c'était le début de la guerre. Et tous les enfants, dans mon cas, on les exfiltrait le plus vite possible vers la Belgique, la Suisse, les États-Unis, la France, enfin, voilà, pour leur permettre de pas avoir à vivre ça. Donc merci pour ça.
Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te poser des questions sur ton identité? Tu n'as pas cherché à gommer cela?
D'abord parce que mes parents adoptifs m'ont tout de suite dit à l'âge de 3 ans quelle était ma situation. Et donc elle faisait partie de moi.
On est curieux.
Et alors je ne juge pas ceux qui préfèrent ranger ce sujet-là dans un tiroir. Beaucoup en font un sujet discret. Pour ma part, ça n'a jamais été un sujet... j'ai jamais été introverti sur la question et je l'ai toujours dit, verbalisé, et donc ça faisait partie de moi et comme tout le reste, c'était pas, il y avait pas de tabou sur le sujet et le fait d'en parler n'était pas une rupture du contrat moral vis-à-vis de ma famille d'adoption, en aucun cas.
Heureusement, oui.
Non, mais ça peut être le cas dans certaines familles où du coup le sujet n'est pas dit parce qu'on a peur de, je ne sais pas, des choses comme ça. Et voilà, mes parents adoptifs avaient cette intelligence aussi d'y voir. Tout à fait un sujet normal et sain, c'est normal de parler de son origine. Et c'est pas une remise en cause de l'amour qu'on a.
Parle-nous de tes parents adoptifs, quel milieu social tu as grandi, où cela?
J'ai grandi dans les Yvelines, secteur ville nouvelle, 50 ans en Yvelines. Une ville qui venait de sortir de terre, qui s'appelle Maurepas, comme beaucoup d'autres dans la région. Hein,
donc c'est de la classe
Coignères.
Moyenne?
C'est de la classe moyenne. C'est de la classe moyenne, c'est un père périgourdin et une mère de Levallois-Perret. Qui avaient jamais, qui n'ont pas eu leur bac ni l'un ni l'autre, qui ont fait leur vie professionnelle pour mon père dans le milieu technique industriel, dans une fonction d'ingénieur, 40 ans dans la même boîte, enfin le schéma classique. On aura l'occasion d'en parler parce que ça fait écho avec une des chansons.
Laquelle?
Pot de départ.
Oui, bah c'est celle qu'on va écouter dans quelques minutes alors. Qu'est-ce qui chez eux leur a donné envie d'adopter cet enfant? Est-ce qu'ils avaient déjà des enfants?
Non, c'était très très clair pour eux dans le contrat dès le départ. Dès qu'ils se sont rencontrés, l'un des deux ne pouvait pas faire d'enfant. Ouais. Donc il était pas, voilà, il était question d'adoption dès le début. Et ils ont d'abord adopté une fille en France, à l'âge de 2 mois aussi. Donc j'ai une sœur adoptée aussi.
Vous voyez?
Moins souvent maintenant. Mais
êtes en contact.
Oui, ça veut pas dire qu'on n'est pas en contact. Tout à fait, ouais.
C'est pas une vraie sœur, c'est une sœur de cœur alors.
C'est souvent c'est mes enfants qui me disent mais papa, est-ce que ton papa c'est ton vrai papa? Ça veut dire quoi vrai? C'est compliqué à expliquer. En tout cas, non, j'ai eu une enfance avec elle tout à fait normale comme si c'était ma sœur de sang, sans aucune différence. et sans aucune différence de traitement affectif de la part de mes parents, puisqu'effectivement on n'était pas mélangés avec des enfants naturels, donc la question se posait pas d'avoir l'impression d'être un enfant de seconde classe dans une famille quand on était sur un pied d'égalité, ouais.
Et tu as toujours senti qu'ils cherchaient pour toi le meilleur, comme si tu avais été un enfant naturel?
Complètement, oui. Oui, oui, complètement. Avec cette intelligence de leur part, rétrospectivement, on s'en aperçoit plus que, évidemment, quand on est dedans, dans l'enfance, de créer le cadre pour me permettre de faire ce que j'ai envie de ma vie, plutôt que de vouloir m'imposer des modèles, pour moi, des choses qu'ils n'auraient pas fait eux-mêmes. Voilà, j'ai jamais eu de pression pour devenir quelqu'un, en particulier que eux auraient souhaité que je devienne. Ils m'ont mis dans les mains les outils, les armes, pour me permettre de vivre ma vie et faire mes choix.
Et ensuite, à l'adolescence, les premiers départs, comment les choses se sont passées?
À l'adolescence, sur le plan toujours
peut-être
personnel.
Les études supérieures.
Ça
coûte cher, les études supérieures.
Absolument.
Donc c'est un sacrifice. Est-ce que les parents qui ne sont pas des parents de sang font le même sacrifice?
Sans doute pas tous. En tout cas, les miens l'ont fait et ça leur a beaucoup effectivement beaucoup coûté. Le deal avec eux, c'était si tu cartonnes à l'école, c'est nous qui payons. Et ça a marché. J'ai été tête de classe tout le collège, tout le lycée. Et sortant d'un lycée de Maurepas, banlieue, à l'époque on avait des cartes oranges, 5 zones. On était vraiment très très loin de Paris intramuros.
C'était la zone 4, non?
5.
Déjà 5.
Ouais. Et Terminal C, et je décroche Janson de Sailly à Paris, un lycée prestigieux en prépa HEC. Donc voilà, autant dire que à la force du bras, j'ai été chercher mon ascension sociale. Ouais.
Et vis-à-vis de tes camarades de classe, ils connaissaient ta situation?
Tous, oui, oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'était un sujet de curiosité qui revenait régulièrement de temps en temps, mais voilà, ça n'avait pas d'autre incidence.
Sans ironie, comme ça, c'était juste un sujet de curiosité.
Oui, curiosité, et parfois même certains étaient envieux. Toi au moins, t'as une histoire à raconter, t'es pas franco-français, il se passe quelque chose. Et puis avec les copines, ça marchait bien aussi.
Bah oui, en plus il a une belle gueule, Jean Dussétour. On va mettre le lien, pour ceux qui vont venir voir le podcast sur le site internet ou l'entendre, on va mettre un lien vers ta chaîne, voilà. L'enfance, l'adoption, ça a été le thème de cette première émission avec Jean Dussétour. Puis on va progressivement oublier l'étiquette Jean Dussétour, hein, le vrai nom de Jean, pour passer à Le Drus. Il y a un album donc qui va sortir, qui est presque prêt.
Oui.
Pourquoi du rap?
C'est ce que j'ai écouté dans mon adolescence. On parlait d'adolescence. C'est ce qui m'a le plus parler, ça faisait écho intimement avec une envie de réparer ces blessures primitives, justement ce trauma, parce que ce sont des textes en tout cas dès cette époque-là, hein, fin années 80, on parle des premiers textes d'NTM notamment, ce sont des textes très combatifs, très résilients, sur le fait que c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se laisser abattre, c'est pas parce que le monde est injuste que on n'a pas sa place et qu'on peut pas essayer de faire quelque chose de sa vie. Et voilà, tout ça pour moi c'était extrêmement autothérapeutique, en gros, d'écouter ça dans mon Walkman Iowa, ça me faisait beaucoup de bien.
Avec un stylo pour réembobiner, non, c'était ça? C'était déjà du numérique?
Ah non, c'est effectivement, ouais, on se copiait les cassettes les uns les autres, donc les sons étaient pas très quali, mais ça empêchait pas le plaisir d'écouter et de réécouter ça tout le temps. En tout cas pour moi c'était ça le point de départ. Ça m'a aidé à me construire, ça a été une digue pour moi. Et pour autant, à cette époque-là, j'ai encore besoin de me rassurer beaucoup, sans doute parce que j'ai cette espèce de vide d'origine, donc j'ai encore plus besoin de me rassurer, peut-être. Donc je fais ces études pour devenir quelqu'un qui doit avoir un costume, une cravate, un salaire, être stable, gagner de l'argent pour me rassurer. Je m'interdis de penser à ce pourquoi je suis là aujourd'hui, à savoir d'envisager une piste créative dans ma vie.
Mais à l'époque où tu écoutais ces chansons, c'était pas des chansons qui te correspondaient, puisque c'était plutôt à l'époque, je dis bien à l'époque, les choses ont changé maintenant, les chansons destinées aux jeunes des cités, des banlieues, issus de l'immigration. Toi-même maintenant, tu n'étais plus issu de l'immigration, tu t'appelais déjà Jean, voilà. Donc, ça te concernait finalement pas?
Oui et non, j'étais quand même un enfant issu d'un pays étranger. Donc cette question identitaire était présente quelque part en moi, même si j'étais dans une ville effectivement de classe moyenne qui n'était pas une cité. J'étais à Maurepas, j'étais pas à Trappes ou j'étais pas à La Verrière, et pourtant ces villes on les côtoyait.
Et le rapport, nos compatriotes, avec les jeunes Libanais à l'époque était différent de celui qu'ils avaient avec les Maghrébins. C'était pas...
Pour moi, les Libanais, c'était un sujet abstrait. J'ai rencontré mes premiers Libanais en prépa HEC. Donc il m'a fallu attendre.
Des gosses de riches, alors.
En tout cas, des enfants qui avaient une appétence pour le commerce.
Bah oui, mais ça, c'est dans le sang. Hein.
Voilà. Voilà.
On va écouter tout au long de cette semaine avec Jean, chaque jour une chanson. Et on va commencer par Pot de départ. Parle-nous-en.
C'est un texte que j'ai écrit en début d'année 2023. Un peu dans le climat ambiant de la question des retraites, je me suis posé la question de l'intergénérationnel. Qu'est-ce que la génération d'avant nous a vécu, et ça a fait pour moi écho avec ce sujet-là, qui est le pot de départ. J'ai jamais aimé les pots de départ dans les entreprises. Et quand je regarde la génération d'avant nous, je parle de celle de, par exemple, de mon père, qui a passé 40 ans dans son entreprise, c'était à l'époque le point paroxystique d'une carrière, le pot de départ. C'était la fin de tant d'années passées, consacrées, dédiées. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un espèce de soufflet qui retombe tellement vite. Une fois qu'on se retrouve à la retraite, tout le monde vous oublie. Les choses retombent, les gens rentrent dans une espèce de solitude un peu brutale. Alors certains se réinventent des vies de bénévoles en association, etc. pour essayer de se trouver une contenance, se remplir l'agenda, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent socialement dans le fait, dans cette génération-là, d'avoir tant donné aux côtés de leurs collègues, et tout d'un coup, bam, comme une rupture brutale, de se retrouver à devoir tout reconstruire. Et c'est un clin d'œil que je fais pour envoyer ce message aux anciens, du fait que je pense qu'il faut que quelqu'un parle pour dire ça, parce que c'est pas très bien.
Surtout
comment
qu'au
on s'est comporté avec eux.
Au départ, on offre la canne à pêche, on dit je viendrai le week-end te voir, je vais venir pêcher avec toi.
Exactement.
Ça se produit pendant un mois ou deux, puis après le téléphone ne sonne plus, le collègue que l'on voyait ne revient plus.
Exactement, ça va très très vite, oui, en quelques mois c'est terminé.
Et on voit la personne décliner et vieillir.
Voilà, et ça c'est pas bien. Et
oui, mais c'est la vie aussi, Jean.
Alors c'est la vie d'une génération qui était très mono-entreprise aussi, parce que son entreprise c'était sa vie, parce que
entreprises, les pressions sont aussi telles, parce qu'on peut être aussi très sincère en disant je vais venir te voir, bien sûr qu'on garde le contact, et tellement être happé par une sorte de tourbillon qui nous laisse plus le choix. C'est quand la sincérité, quand on dit je viendrai te voir et ne pas le faire après, en réalité je le pardonne. Et je l'ai vécu aussi.
Ouais. Ouais.
Mais en étant vraiment sincère. Et après, en apprenant quelques années après le décès de la personne, en disant, mais je vais dire que je voulais passer du temps avec lui et aller la voir, cette personne. Et puis chaque fois que je me dis le week-end prochain, je vais la voir, il y a un truc qui est plus important qui arrive. Voilà.
Alors je pense que les choses ont vraiment changé aujourd'hui, puisqu'on zappe tous les 3-5 ans d'entreprise. Donc on fait ses courses, en gros, on garde toujours des relations, une ou deux dans chacune d'entre elles. Quand on arrive, je pense, à la fin d'un parcours de 43 annuités, c'est ça le nouveau règlement, je pense qu'on n'a pas construit la même vie affective avec, voilà, en parallèle de sa vie professionnelle. Et donc on est moins dépendant affectivement d'une seule et même unité de sociale, à savoir une seule entreprise, puisqu'on en a fréquenté beaucoup plus. Donc voilà, je pense que les choses sont différentes aujourd'hui. Elles sont pas moins ironiques sur le plan du moment du pot de départ, qui est toujours un événement que je trouve assez comique. Alors que voilà, pareil, à charge pour les gens de décider de le scénariser autrement pour en faire une fête agréable. Hein. Mais voilà, le sens de cette chanson, c'était un clin d'œil aux anciens.
Eh bien, on écoute cette chanson Pot de départ par Le Drus. Merci.
Merci Yannick.
Ce soir, c'est le jour des job à 16 ans, j'écris mon texte en 16 mesures. Je leur ai plié 16 dossiers, ce soir je pars à 16. On a soldé, je prends mon pèse, je laisse ma chaise vider le caisson, 3 tiroirs, j'ai posé le badge et je contrôle Z. Le discours de JP fait couler les larmes de Françoise. Françoise, toujours là pour les autres, qui sera là pour toi, qui paiera l'ardoise. Christine a sorti les chips, j'ai pas envie mais je vais dire oui. Le kir est servi, certains dégustent comme Roman et continue de te questionner sur ta suite. Hein. Toujours
toujours fidèle, la compta débarque au complet. Philippe surgit du couloir, sa métaphore filée vient encore de faire un big flop. Et au lieu de lui dire, tout le monde sourit. Fais pas de vanne si tu n'as pas de chute, Philippe, chute. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, 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 Deb. Pas un adieu, juste un bye bye, un au revoir. Retour casse départ. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, 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 Deb. Les anciens recevaient pour fin de carrière un poste radio pour écouter France Inter. Des promesses de on reste en contact. Un an plus tard, on leur envoie le colis de fin d'année, les vœux signés du PDG accompagné d'un pâté sanglier. À part une télé allumée, personne te parle dans l'appart. Le tel sonne des inconnus, un nouveau plan d'épargne. Beaucoup partent en province oubliés, s'éparpillent, le regard égaré, se racontent ses déboires sans s'écouter. Long métrage de leur vie n'intéresse plus personne. Le goût amer de cette quand même fait un peu voler. Voler sa vie pour gaver loi, la loi d'association d'intérêt privé. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, 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 Deb. Pas un adieu, juste un bye bye, un au revoir, retour casse départ. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, 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 Deb. Départ, je vais tailler dans le STC. J'ai pris la terrasse face au soleil. C'est que l'happy hour, le mois de mai, les robes à fleurs. J'ai transformé la table, aménagé le dance floor. Passé une certaine heure, c'est toujours pareil. J'envoie des packs qui existent pas, mais je suis comme ça. Quand la serveuse me calcule, je suis susceptible d'occasionner des dégâts. Je dois mal tenir l'alcool, juste un dernier. Après, je décolle. Ras-le-bol du bar, de leur playlist, des Sex Pistols. Carole me demande où je vais, je sors, c'est tout. Pourquoi? T'es d'Interpol? Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, 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 Deb. Pas un adieu, juste un bye bye, un au revoir. Retour casse départ, je déteste les pots de départ, ah. Je déteste les pots de Deb, Deb. Deb, Deb.